Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Elle a toujours raconté des histoires d'exil dans ses trois premiers albums autour des champs de prisonniers sibériens, de la saoudade portugaise ou de la terre russe, des histoires d'amour avec Bessame Mucho et l'ensemble Contraste, des histoires de mort avec Le Voyage d'hiver de Schubert et le pianiste de jazz Guillaume de Chassy. Il faut dire qu'elle se destinait au théâtre avant que le chant ne fasse irruption dans sa vie, même si la musique a toujours été là, en témoignent ses années de violoncelle et ses cours de chant avec sa sœur Chloé. Aujourd'hui, la voix de Noémie Wasfeld nous ouvre les portes de l'âme yiddish. Son cinquième album, Soul of Yiddish, est disponible chez AWZ et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Noémie Wasfeld.
Bonjour.
C'est par ce morceau que commence l'album, alors vous allez prononcer le titre beaucoup mieux que moi, alors je vous laisse faire.
Mit verhärmte Augen.
Voilà, en français, les yeux fermés.
Les yeux fermés.
Voilà, c'est un texte très poétique, c'est un texte de foi aussi, qui dit « Dieu est grand, qu'il sanglote dans les vallées, que bienheureux est celui qui les entend ». Ce mélange singulier entre la mélancolie, la tristesse et une forme de joie avec cette musique qui est plutôt enjouée, c'est une composante majeure de l'âme yiddish.
Je crois que vous avez tout dit. C'est aussi une composante majeure qu'on peut retrouver dans le fado, par exemple, parce que la saoudade a son équivalent en polonais avec le zal, qui est ce sentiment si particulier qui mêle, comme vous venez exactement de le dire, la joie, la mélancolie, cette espèce de croyance folle, l'espoir, la vie, la pulsion de vie, et en même temps toujours une forme d'arrachement ou de quelque chose de fêlé.
De fêlé, effectivement, parce que bon, il faut dire que, faut peut-être expliquer l'origine, effectivement, de la langue yiddish qui est en lien avec le drame de la Shoah.
Tout à fait. Alors, elle n'est pas en lien, évidemment, dans son histoire, puisqu'elle est très ancienne, elle était parlée oralement, elle n'était même pas écrite avec des caractères. Tout ça est arrivé plutôt au 18e, 19e siècle, même un petit peu avant. Et ça a été officialisé avec la Lituanie, qui a officialisé toute la langue yiddish, ses caractères, son écriture. Mais en effet, la Shoah a complètement meurtri une immense partie de la langue, de sa tradition, de sa culture. Mais on a la chance quand même d'avoir beaucoup de traces et beaucoup de poètes.
Oui, mais c'est vrai que ce disque, il n'est pas du tout pathos. C'était ça le piège, parce qu'on pouvait s'attendre effectivement à ce que ce soit comme ça. Vous aviez ça en tête, il fallait éviter ça.
Alors, je ne l'avais pas en tête d'une manière volontaire ou comme quelque chose à surtout ne pas faire. En effet, que ce ne soit pas pathos, je pense que c'est le challenge dès qu'on fait un travail avec le passé, quand il y a une histoire qui est difficile, quelle qu'elle soit. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mon cinquième album. Et c'est comme si, après avoir fait ce triptyque de chants d'exil dont vous avez parlé, ce voyage d'hiver, j'ai toujours cherché qu'est-ce qui était la lumière, l'espoir, mais c'était quand même des chants vraiment très empreints d'exil, intime ou réel. Et je crois que ce Soul of Yiddish-là ne raconte pas du tout cette histoire-là. C'est plus l'exil, c'est maintenant. Maintenant, on est là. Et au contraire, quelle nouvelle empreinte on peut trouver dans ce Yiddish lumineux.
Alors, lumineux et la lumière, la couleur du ciel, parce que on a l'impression d'un côté très, très, très léger. On a l'impression, on a envie de lever les yeux au ciel. Qu'on ait ou non la foi, d'ailleurs, hein, Noémie Vassel.
Merci de le dire. Qu'on ait ou non la foi, parce que il y a toujours de l'humour ou une distance, même dans les mots que vous avez cités de cette chanson, Dieu est grand et il pleurniche dans les vallées. C'est quand même un peu fort de café de parler Dieu de cette manière-là. Ça montre bien qu'il y a une distance, en effet, un recul.
C'est Itzik Manger.
Itzik Manger, qui est un grand poète avec une écriture justement très fantaisiste, pleine d'humour. Et c'est ce Yiddish-là qui n'était pas forcément celui que je croyais connaître, ou l'approche que j'en avais. Et c'est celui-là que j'ai eu envie d'explorer, ce Yiddish plein d'humour, plein de vie, finalement.
Et donc plein d'une certaine forme de légèreté. D'ailleurs, il y a des oiseaux hein, que l'on peut croiser comme ça dans le livret de l'album. Mais c'est vrai que ce sentiment, cette volonté de décoller, de s'élever est très très présente dans la musique. On parlait d'âme Yiddish, Noémie Weisfeld. Quelle différence et quelle ressemblance entre l'âme Yiddish et l'âme russe?
C'est une sacrée question. Alors peut-être que l'âme russe, elle est plus cernable parce qu'elle est russe.
Ah oui.
Je dirais ça, c'est-à-dire que quand je pense au Yiddish, j'ai, comme vous parliez d'oiseaux, comme des hirondelles qui viendraient de toutes parts. Alors que quand je pense à la culture russe, en tout cas à mon approche, attention, je ne suis pas née en Russie, je ne suis pas née en Pologne.
Mais vous avez étudié le russe aussi.
Oui, j'ai étudié le russe et le Yiddish, mais c'est vrai que j'en ai une image un petit peu plus, avec un contour plus précis. Je pense toujours à cette grande élégance du russe, de la langue, et en même temps ce côté très, très rappeux. Cette grande sensibilité, fragilité, amour de la poésie. Tous les Russes peuvent réciter Pouchkine, c'est assez sidérant. Et en même temps, il y a de la musique partout dans les rues. Voilà, c'est clair, je donne des images peut-être un petit peu clichés,
non,
mais juste pour expliquer. Quand je pense au Yiddish, j'ai l'impression d'une palette avec énormément de couleurs possibles. Parce que je ne peux pas dire comme ça en quelques mots. En tout cas, quand j'y pense, avec votre question, j'ai le sentiment que c'est quand même toujours lié à de là d'où on vient. Parce que là, Yiddish, on n'est pas Yiddish. C'est pas une nationalité. Ça veut dire qu'il y a le Yiddish avec le russe, le polonais, l'ukrainien, toutes les autres langues dans le pays dans lequel on serait alors né. Moi, je peux dire que je porte peut-être une âme yiddish et pourtant je suis née à Paris.
Tona, 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 tona. trycket som sina fäger, valskicket som sina skall.
Donna, c'est un standard yiddish hein, chanté par John Baez, Donovan, Theodor Bickel, Esther Ofarim, bien d'autres, et maintenant donc par Noémie Weisfeld qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Et pour le dernier refrain, on entend une voix d'enfant qui se mêle à la vôtre. Vous avez grandi avec ces chansons-là, avec cette chanson-là, Noémie Weisfeld.
Oui, avec ces chansons-là, pas forcément toutes celles qui sont dans le disque, mais Donna Donna évidemment. Particulièrement la version de Chava Halberstein. Ce sont des chansons que j'ai toujours entendues.
C'est d'abord par la chanson que vous avez découvert le yiddish ?
Oui. Je savais que ma famille portait cette langue. J'allais dire venait de là-bas, mais ce serait contredire ce que je viens exactement. De vous dire juste avant. Je le savais, je savais que mon grand-père maternel pouvait tout à fait parler en yiddish, qui était sa langue maternelle, avec ma grand-mère paternelle. Mais puisque mes parents ne le parlaient pas ou connaissaient que quelques mots, je ne l'ai pas entendu à la maison. C'est par la musique. Et quand j'ai ensuite eu envie de l'apprendre, là, j'ai tenté de parler un petit peu avec mon grand-père.
Oui, vous l'avez apprise à la Maison des Cultures Yiddish, ensuite à l'INALCO, à l'Institut National des Langues Orientales à Paris. Est-ce que, à partir de ce moment-là, vous l'avez entendu, vous l'avez ressenti, vous l'avez appréhendé différemment ?
Oui, mais pas forcément dans quelque chose d'aisé. C'est-à-dire que ce qui se pose souvent avec le yiddish, c'est qu'il y a un yiddish par shtetl, comme on dit, c'est-à-dire par village, par famille. Ce qui fait que c'est pas forcément évident de parler en yiddish. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, le yiddish lituanien, qui est un peu celui qui met tout le monde d'accord.
Oui.
Mais par exemple, mon grand-père qui avait l'accent polonais, où tous les U deviennent des I. Alors en fait, je n'avais pas du tout le niveau de pouvoir faire dans l'immédiateté, la traduction, finalement, de son accent. Donc, je me suis rendu compte que c'était une chose de l'apprendre, c'en était une autre de savoir le parler d'une manière familiale, vivante. Donc, il y a des gens avec qui je peux tout à fait mener une conversation, et il y en a d'autres, bah, en fait, c'est une autre nouvelle langue.
Vous avez peut-être vu, Noémie Weisfeld, le documentaire de Nourit Aviv sur le yiddish, qui s'appelait tout simplement Yiddish et qui donnait la parole aux jeunes, juifs ou non, hein, installés dans plusieurs pays différents et sensibilisés à la poésie yiddish de l'entre-deux-guerres. Et dans ce film, on se rendait compte combien le yiddish n'avait pas toujours bonne presse, qu'il suscitait parfois un certain dédain parce que c'est une langue finalement très, très populaire. Vous comprenez ces préventions-là ?
Je le comprends pas affectivement. Parce que c'est une langue que j'aime énormément.
On sent que vous goûtez le yiddish.
Merci si vous le ressentez. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à la chanter. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de sons fermés où il faut surtout pas rajouter des voyelles. Alors c'est très intéressant vocalement de trouver comment le dire correctement. Et puis tout ça est évidemment améliorable, si c'est pas un réel mot. Donc je ne le comprends pas, moi, avec émotionnellement, ce que me donne cette langue à entendre et à ressentir. Par contre, quand on regarde l'histoire du yiddish, c'est exactement la même chose avec le théâtre yiddish, par exemple. C'est-à-dire qu'avant que le théâtre yiddish puisse exister, ça a été très compliqué, très mal vu, plutôt empêché, parce que c'était se moquer, prendre en dérision tout ce qui était noble, élégant, religieux. Donc finalement, le yiddish avait toujours une place à part. C'était « faites ça chez vous, nous on ne veut pas en entendre parler ».
Alors à propos de religion, le disque se conclut par votre version du Kol Nidrei, la prière de Kippour, qui a inspiré beaucoup de compositeurs. Ici c'est Christian-Pierre Lamarca qui signe les arrangements. C'était un passage obligé?
Votre question me laisse sans voix.
C'est bien la première fois.
Un passage, c'est sûr. Obligé, je ne sais pas. Sûrement, puisque je l'ai fait. En tous les cas, un passage interrogateur. Parce que quand j'ai senti, et je dis bien senti parce que ce n'est pas de l'ordre de la raison, que j'avais envie de chanter le Kol Nidrei, parce que comme beaucoup de monde, et pas forcément les juifs ou les religieux, la mélodie du Kol Nidrei est une splendeur. Quand j'ai senti que j'avais envie de la chanter, je me suis tournée vers Delphine Horviller, qui d'ailleurs signe...
L'une des femmes rabbins de France, qui signe effectivement la préface du livret, oui.
Et je suis allée la voir en lui disant « je suis bien embêtée ». Parce que moi qui suis laïque, qui me sens juive, mais pas que, qui avait envie d'être un homme quand j'étais adolescente parce que j'aimais les rôles d'homme au théâtre, j'ai aujourd'hui envie de chanter le Kol Nidrei, moi qui suis quand même femme, a priori, et donc pas religieuse. Qu'est-ce que je fais ? Et j'ai décidé, elle a d'ailleurs été étonnante, parce que plutôt que de me donner une réponse oui-non, elle m'a renvoyé des questions, et elle m'a surtout dit, alors si on prend le parti pris religieux, tu es une femme et tu chantes, tu es déjà dans une forme de transgression, alors continue. Et j'ai laissé décanter cette envie, et je l'ai comprise plus tard.
Sur ce disque, il y a des airs sacrés, on l'a dit, il y a d'autres profanes, il y a des airs plus savants, il y a des airs extrêmement populaires. Cet éclectisme-là, cette volonté d'abolir les frontières, il vous a toujours guidé ?
Oui.
Comment vous avez choisi les 13 titres qui forment ce nouvel album ?
À quelques exceptions près, ce qui a guidé, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est une figure d'oiseau, et particulièrement un paon doré, qui est un symbole que l'on retrouve dans plein de cultures chrétiennes, indiennes, qui symbolisent la fertilité, la sensualité. Et Itzik Manger, justement, ce poète yiddish, en a fait le symbole du messager de la culture yiddish. Et j'ai eu envie que ce paon accompagne les chansons. Donc, dans quasiment toutes les chansons, figure un oiseau, un paon doré, il est souvent nommé Golden Epave. Une aile qui, justement, donne cette dimension d'envol possible. Donc, je les ai choisis avec cet oiseau-là.
Et puis, surprise, un morceau qui va peut-être dire quelque chose aux amateurs de bonnes chansons françaises.
Koim oif kevek tister tonk Koim koim avek tinart ket farbay Und dein Hand zu mir sie glitschet schon allein der Hand. Kein Mäuf geweckt er aus von Schlaf mit kein geöffnete Augen. Suchst du schon die Hand meine, die kriegst es meine glitschet tun, der weiß er facht auch auf die Platz. Ich schein bald der Rieber, bald gar weg. Guck durch ein Fenster, was euch schein, guck er, hat auch ein Scheiner.
Une reprise de Barbara en version yiddish. Pourquoi Barbara et pourquoi cette chanson de Amy Westfeld? À peine.
À peine. Barbara fait partie des femmes, de mes muses. Je suis complètement éperdue de sa musique. elle m'accompagne, elle aussi, depuis toujours. Il y avait autant à la maison du Barbara que la Traviata, que des chants yiddish. Et Barbara, je la chante avec un autre ensemble, avec deux violoncellistes, Louis Rode et Juliette Salmona. Et j'avoue que c'est un grand bonheur de chanter Barbara. Je me sens vraiment très chez moi, dans une forme de maison vocale et poétique. Et j'ai eu envie d'emmener Barbara dans ce voyage-là de Soul of Yiddish. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il y a aussi un petit peu de son histoire et de ses origines, mais ce n'est pas l'argument. Je crois que sa poésie, qui est très entre, comme vous disiez tout à l'heure, entre nostalgie, vie, poésie, chanson, avait complètement sa place en résonance avec les chansons yiddish.
Et puis vous avez aussi adapté plusieurs textes d'une poétesse, Rivka Kopé, que je ne connaissais pas. Vous pouvez nous la présenter rapidement ?
Oui, c'est normal que vous ne la connaissiez pas, parce que c'est une poétesse complètement méconnue, qui en fait est la grande tante du contrebassiste Antoine Rosenbaum, qui est dans l'album. Et j'ai eu le cadeau d'avoir ses recueils entre mes mains, toute sa poésie, qui a été éditée aux États-Unis. Mais c'est tout. Finalement, on ne sait rien d'autre. Donc je me suis un petit peu penchée et j'en ai pas fini. Ça va devenir une enquête et ça m'amuse beaucoup. Et Rivka est née à Paris. Elle a émigré aux États-Unis. Elle avait en fait toujours écrit des poèmes. Et quand j'ai ouvert ça, j'ai eu l'impression d'une poésie hallucinamment merveilleuse. Donc j'ai contacté mon amie Masha Fogel qui a fait toutes les traductions de l'album, qui est un yiddish de naissance. Et je lui ai dit, dis-moi ce que t'en penses, mon niveau ne me permet pas de savoir exactement, mais j'ai l'impression que c'est dingue. Et j'ai l'impression d'une Marina Tsvetaeva, pour revenir entre russe et yiddish, elle m'a dit, t'as entièrement raison, mais une Marina Tsvetaeva encore plus solaire, encore plus lumineuse. Et là, je me suis dit, mais c'est cadeau du ciel, c'est des poésies méconnues, lumineuses, qui tombent comme ça, il faut les mettre en musique.
Irmol mit der Sticknacht mein Porträt. Der äußere leere Chor spielt harmonisch ein Reus von ihnen wenig. Mein Ponim. Wenn Stein mit Stein redt sich zu Neuf, wird ein Funkendialog.
Rivka Kopé, mise en musique par Kevin Siddiqui, qui vous accompagne à la guitare, et Sarah Nemtanou, qui vous accompagne au violon, qui est quand même premier violon de l'Orchestre National de France, excusez du peu. On va citer aussi vos autres compagnons de route, hein, Antoine Rosenbaum à la contrebasse, qui est donc le petit-neveu de Rivka Kopé, et Pierre Lamarca au violoncelle. On va se quitter, Noémie Weisfeld, avec Mazel. Mazel, ça se traduit par chance. En français, alors j'ai de la chance puisque, comme vous le disiez, il y a un livret avec les textes en langue originale et la traduction en français. J'ai passé par de mauvaises routes corrompues, pourtant je n'ai pas été brisé. Où trouver un peu de chance, où trouver un peu de joie. Ça fait partie des paroles de ce morceau. C'est un petit peu à travers ce disque, finalement, que vous avez trouvé la réponse.
Je suis complètement d'accord.
C'est un bon résumé.
La musique est l'endroit de joie.
Voilà, et la joie, vous pourrez peut-être la retrouver, en croise les doigts, en concert le 8 juin prochain au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. C'est important que ce disque ait une version scénique.
Ah oui, très. C'est déjà, on est très heureux de pouvoir le sortir, c'est-à-dire qu'on apprend avec cette période à être heureux de ce qu'on arrive à faire, mais le partage avec le public, c'est quand même pour ça qu'on l'a créé. Il est temps que ça arrive.
Eh bien, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci beaucoup.
Merci.
Noémie Weisfeld d'être venue nous voir. Je rappelle que votre album Soul of Yiddish est disponible chez AWZ et donc, on l'espère, ce concert, je le répète, le 8 juin prochain au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Notre invité aujourd'hui dans VMDR.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Carmen Lunzmann et Alain Pilot, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour
Jean-François.
Au menu de ce vendredi, Alain, oh là là, de l'indécence.
Oui, c'est le titre de ce magnifique opus d'Antoine Bataille, son 15e, et pourtant on le connaît peu encore, et vous allez en savoir un peu plus sur lui. Bataille, c'est mon combat de cette fin de semaine.
Vous, Marjorie, vous allez nous embarquer en Égypte pour parler littérature, littérature et peinture, à travers « Moi, étoile filante », le nouveau roman de Khaled Al-Khamisi.
Oui, et ce qui file aussi, c'est la vitesse avec laquelle on lit ce roman captivante autobiographie imaginaire de Shihab al-Shamandar, dont le prénom signifie justement « étoile filante ». Un peintre contemporain égyptien qui ne cesse de renaître tel le phénix. Une confession dense, pleine de suspense, d'humour et de mélancolie. Jamais, je crois, un roman égyptien n'a exploré si loin les affres de la création et du remords.
Allez, on se lance avec vous, Carmen, dans une avalanche de sons. Ce titre, Avalanche, eh bien, il ouvre l'album Back Mirror, Back Miroir, qui reflète un monument de la musique baroque en mode assez rock'n'roll quand même.
Ben, il y a incontestablement un air de Bach, Jean-Sébastien Bach, dans cet album, à la fois libre et fidèle au compositeur allemand. C'est un véritable feu d'artifice en rythme, son et harmonie, quand imaginez le pianiste français de jazz Thomas Enko et la percussionniste bulgare Vasilena Serafimova. À partir de 4 baguettes du marimba et des 88 touches du piano, ils ont réinventé l'œuvre du compositeur baroque avec fougue, fantaisie et un profond respect.
Bach, pour moi, il symbolise une forme de perfection et d'aboutissement total, quelque chose de monumental qu'on a du mal à appréhender avec nos moyens d'humains, comme la nature, comme une forêt, comme la mer, des choses qui sont bien plus grandes que nous, plus profondes, plus hautes.
Pour moi, il y a aussi une connexion directe avec le ciel, avec l'univers. Dans sa musique, on ressent vraiment sa croyance, tout ce infiniment grand qui est inscrit à l'intérieur de la musique. Donc c'est quelque chose qui nous habite et qui nous amène plus loin.
C'est en quelque sorte un clin d'œil du futur hein, de la part de ces jeunes artistes polyvalents, avec notamment le marimba, qui n'était même pas encore né à l'époque de Bach, Carmen.
En effet, Jean-François, cet instrument en lame de bois de la famille des xylophones, qui se joue à 2, 4 ou même 6 baguettes, il est originaire d'Afrique et a émigré en Amérique latine au 19e siècle. Mais comme dit la marimbiste Vasilena Serafimova, qui a fait ses armes dans sa Bulgarie natale, au Conservatoire de Paris et à la Juilliard School de New York.
Bach, il rime avec tous les instruments. En fait, c'est assez incroyable, mais Bach était vraiment quelqu'un d'extrêmement inventif. Je suis sûre que si le marimba existait à son époque, il aurait écrit un très joli concerto pour nous. On l'entend vraiment jouer sur tout et ça donne aussi quelque chose de presque contemporain à sa musique. Elle est éclairée avec une autre lumière.
Et pour les fans de Marvel, moi j'ai toujours eu l'impression que Vasilena c'était un peu comme Wolverine dans les X-Men. Les griffes comme ça, au bout, c'est là des espèces de grandes baguettes, puis elle danse, on dirait une espèce de jaguar ou de félin, et toujours pieds nus.
Et avec Vasilena Serafimova et Thomas Enko, à l'origine de ces transcriptions aussi vertigineuses que vivifiantes, on l'a compris, la musique de Bach, Carmen, prend une toute autre allure. Hein. On est loin du côté austère qu'on pourrait attribuer au cantor de Leipzig.
Il n'était pas si austère que ça non plus, hein, car pour la petite histoire, Jean-François, Bach était aussi un bon vivant qui se faisait rembourser l'impôt sur la bière et passait même un mois derrière les barreaux pour lèse-majesté.
Ah oui, quand même.
Tout ça pour dire que ces deux musiciens à la croisée des genres ne se sont pas contentés de sacraliser un monstre déjà sacré, mais de décomposer cette musique pour mieux en capter l'essence.
On est très exigeant, pointilleux, perfectionniste, mais certainement pas puriste. C'est un gros mot chez nous. Et puis Bach lui-même, il vivait pas dans une époque où on avait une sorte de respect complètement sacré, de musée avec la musique. Déjà, les enregistrements, ça n'existait pas. Donc la musique, fallait qu'elle soit jouée. C'était tout le temps de l'art vivant. Et Bach lui-même, dans plein de compositions, faisait des emprunts à d'autres compositeurs. Par exemple, Vivaldi, qui l'a transcrit. Ou alors Jésus que ma joie d'humeur, c'est en fait de Johann Chopp. Moi, je me suis permis de reprendre ce choral-là qui n'est pas de Bach pour le mettre au sein de ma composition Fire Dance.
Avec des titres aussi inspirés que leur transcription, ce duo de funambules en musique avance en équilibre vertigineux entre arrangement, improvisation et réinvention sans jamais toucher le sol.
Vortex, c'est le double de la sarabande de la première partita pour violon seul en si mineur. La mélodie d'origine est là, intégralement, non altérée, sauf que on l'a emmené dans un paysage complètement déjanté, en préparant les instruments, en rajoutant des harmonies, des lignes de basse en dessous, en improvisant, en donnant un truc très percussif. On a rendu cette mélodie qui était déjà pas mal barrée, beaucoup, beaucoup plus barrée.
Alors, au marimba, moi, j'ai mis plein de pièces de monnaie, du scotch, de papier, parce qu'on était inspiré pas mal de l'idée de musique électronique avec les boucles pour rendre quelque chose d'assez minimaliste et de l'éclairer avec la lumière du 21e siècle.
Résolument moderne et truffée de surprises, ces 13 titres choisis parmi plus de 1000 reflètent mille et une facettes de l'œuvre de Bach. Thomas Enko et Vasilena Serafimova passent du sacré au profane, du contemplatif au virtuose, en rajoutant des rythmes latins et de jazz, avec une légèreté époustouflante et une joie de vivre et de jouer, j'ai envie de dire, décidément contagieuse.
L'album Bach Mirror à déguster aux baguettes de Vasilena Serafimova et aux touches en noir et blanc de Thomas Enko chez Sony Music. Merci Carmen. Marjorie, comme vous aviez un petit peu de temps cette semaine, vous avez eu envie de nous plonger dans un gros roman égyptien, Moi, étoile filante, autobiographie imaginaire du peintre Shihab al-Sharmandar par Khaled al-Khamisi, qui raconte la vie d'un peintre contemporain né en 1948, mort en 2018.
Oui, et durant ces 60 années, il se passe beaucoup de choses politiquement et culturellement en Égypte. Elles sont vues effectivement à travers la vie de Shihab, notre étoile filante, qui au moment de mourir se livre à une introspection. Depuis le Caire, où il vit lui aussi, Khaled al-Khamisi m'a expliqué pourquoi il a choisi cette forme.
Parce que je suis quelqu'un qui aime lire des autobiographies. Je voulais écrire un texte qui s'ouvre à la complexité de la vie humaine. Un homme qui confesse ses faiblesses, ses contradictions et ses actes odieuses. Ce qui est important ici, c'est écrire sans menterie, écrire en mettant la pointe du stylo directement dans l'âme.
Et la pointe du stylo de Khaled Al-Ramissi va parfois là où ça fait très mal. Le narrateur n'hésite pas à montrer la lâcheté des hommes, notamment vis-à-vis de la prostitution, où ce sont les femmes qui sont toujours condamnées, alors qu'en lisant « Moi, étoile filante », ce qu'on comprend et ce qu'on voit très bien, c'est comment elles deviennent victimes en fait d'une société. Et Al-Ramissi ne tait pas non plus la misère sexuelle, les frotteurs, ces hommes qui se collent aux femmes dans les autobus, l'oppression des libertés par la police. Affronter la laideur, pour lui, c'est fondamental, et son personnage ne pouvait pas en faire abstraction.
Il souffre de l'oppression, il souffre de la bêtise et de la laideur. Ces trois composants de la vie sociale, chez nous, est vraiment un cauchemar continu qui suffoque la vie humaine, qui suffoque notre vie, qui suffoque ma vie. On fait face à la laideur du matin au soir. Ces derniers 50 ans, en Égypte, c'était une chute libre vers plus de bêtises et plus de laideur. Quant à l'oppression des libertés, elle est restée la même, sévère et dure. Personnellement, je ne peux pas imaginer un texte écrit d'un artiste sans mentionner la souffrance de cette oppression.
Et cette laideur, il la peint également, Marjorie ?
Oui, bien sûr, chez Happ peint tout ce qu'il percute. Il y a un tissage permanent dans le roman entre sa vie avec ses douleurs et ses joies, ses chocs esthétiques et ses tableaux. Chacun des 30 chapitres du roman porte d'ailleurs le nom d'une de ses toiles.
Mais qu'est-ce qu'il peint exactement ?
Alors, chez Happ n'appartient pas à un courant artistique précis. C'est un artiste aux mille facettes, imprégné de surréalisme égyptien, mais aussi de Manet, de Dali, de Bacon, qui se renouvelle sans cesse un peu comme un phénix au contact des autres. D'ailleurs, il peint surtout des êtres qu'il rencontre, qu'il aime ou qu'il déteste, et qui sont métamorphosés par sa perception. Ainsi, beaucoup deviennent mi-hommes, mi-animaux. Un abruti devient un homme gorille, des djihadistes se métamorphosent en hyènes, en fennecs ou en araignées gluantes.
Oui, c'est très égyptien quand même. Alors, les divinités égyptiennes étaient souvent, d'ailleurs, à la fois mi-humaines, mi-animales au temps des pharaons, un peu comme Horus, hein, bien sûr, le dieu du ciel, qui avait une tête de faucon.
Oui, d'ailleurs, certaines de ces divinités sont très présentes dans Moi, étoile filante. Le passé antique, en fait, est encore très prégnant dans la culture égyptienne.
L'Égypte ancienne est ancrée dans la conscience de tout Égyptien, même s'il ne le connaît pas. Les noms de la plupart des villages en Égypte viennent de la langue égyptienne ancienne. La grammaire de notre langue parlée est égyptienne ancienne. En ce qui concerne Cheheb, Cheheb habitait à 10 minutes à pied du musée égyptien. Il est donc impensable à un enfant qui aime dessiner au centre-ville du Caire de manquer des visites de ce musée iconique.
Alors l'Égypte ancienne va beaucoup le marquer, tout comme la galerie de personnages saisissants auprès desquels il grandit, notamment sa grand-mère, Bostan, dont le nom signifie jardin, son grand-oncle Walla, un vieux séducteur au grand cœur, une voisine assassine et cupide. Khaled Al-Ramissi brosse des personnages extrêmement vivants en quelques coups de crayon, un petit peu à la manière des poupées russes aussi.
C'est la forme maternelle où l'histoire naît une autre et la nouvelle histoire fait naître une troisième et ainsi de suite. Et toutes les histoires sont des frères et sœurs qui constituent finalement la mosaïque finale. Cette forme maternelle, c'est la forme que j'ai adoptée dans Taxi et dans l'Arche de Noé et dans ce roman « Moi, étoile filante ».
Mais pour qu'il y ait forme maternelle, il faut qu'il y ait une rencontre avec le sexe féminin. Il rencontre beaucoup de femmes dans sa vie, Chira.
Ah, beaucoup. C'est un vrai coureur de jupons. Mmh. Alors, il y a de très belles histoires d'amour, parfois déchirantes, notamment à Paris où il vit quelques mois. Des aventures très érotiques aussi, notamment dans un chapitre qui s'appelle « L'origine du monde ». Des fantasmes brûlants, parfois entravés par la société et ses règles. Les femmes sont omniprésentes dans cette confession sans phare, où chaque tableau est comme un palimpseste.
Cheheb écrit sa biographie après connaître que la flamme de sa vie va s'éteindre. Il se demande donc, est-ce qu'il était bon ou mauvais ? Est-il digne de la miséricorde du Seigneur de l'univers ? Tout le roman était une répétition de ce qu'il va dire devant le jugement final. On est donc devant un récit qui raconte les histoires cachées derrière ces tableaux. Chaque chapitre, c'est un nouveau tableau. Avec ce nouveau tableau, il y a les secrets de sa vie qui ont fait finalement ce tableau.
Moi, étoile filante de l'Égyptien Khaled Al-Ramissi, un livre qui devrait donc ravir ceux qui, comme vous, Marjorie, adorent les secrets de la création, un livre publié aux éditions Actes Sud. Merci.
Effleure-moi, rends-moi fragile, cette coque frêle, fais-la tanguer, qui sera, qui se cache sous ma vie.
Et fleurs, un extrait du 15e album d'Antoine Bataille, de l'indécence, oui, et de la poésie aussi, Alain.
Oui, Jean-François, puisque ses chansons Personne est inspirée par Fernando Pessoa, Si je par Guillaume Apollinaire, Et toi qui, et d'après Roger Gilbert Lecomte. Antoine nous en dit un peu plus sur ces poètes influents.
Pessoa, c'est l'absolu. C'est un chemin que je suis toujours sur le fil de prendre, de mettre tout dans une malle, sans du tout se soucier d'une quelconque diffusion. La nécessité étant réellement le travail, que ça sorte, que ça jaillisse. La diffusion, c'est un bonheur, c'est pas une nécessité. Apollinaire, particulièrement ce texte qui résonne en moi, Roger Gilbert Lecomte, ce sont les frères Simplice, ce sont les cousins radicaux et absolus des surréalistes qui, eux, les frères Simplice, sont allés jusqu'au bout de l'expérience.
Il y a un homme qui visiblement aime les mots, hein, il en utilise beaucoup.
Oui, et dans ses textes, on trouve entre autres qui chantait la chanson de l'infini dans un poulailler. De l'envie sortira ce chant, de ce chant sortiront les dieux. Dans l'envie entrera ce chant, dans ce chant entreront les dieux. Et chanter les roseaux, la rumeur chantante. Pourquoi ? Pour qui chante Antoine Bataille ?
Ça fait plaisir d'entendre en tout cas que vous recevez les mots et vous les notez, vous les consignez. Ça fait vraiment plaisir que ça soit entendu de cette manière-là. Une excellente question. Je pour me parcourir, je paraphrase Pessoa, c'est absolument ça, pour me parcourir.
Aujourd'hui je suis vaincu comme si je savais la vérité et n'avais d'autre intimité avec les choses que celle d'un adieu. Je serai sur mon cœur plus d'humanité que le Christ. J'ai rêvé plus que Napoléon a conquis.
Antoine Bataille, Personne, inspiré par Pessoa. Alors dites-nous Alain, sous quelle formation se produit-il ?
Antoine Bataille, Jean-François, joue avec un piano acoustique, un petit clavier, des filtres sonores, la voix, des textes et des pédales de sampling. Il conçoit cet ensemble comme un instrument hybride, une entité avec laquelle il vise à trouver la même liberté que sur un piano seul. Cette liberté qui ouvre le champ de l'improvisation et de l'éphémère. En revanche, les plaintes musicales auxquelles il fait allusion dans l'une de ses chansons sont bel et bien là. Que sont pour lui des plaintes musicales ?
Certainement des appels. Et le mot plainte, elle est belle cette question. Eh oui, plainte. Eh bien, je me poserai la question, tiens.
Bon, réponse donc, quand vous lui donnerez à nouveau la parole, Alain, il aura eu le temps de la réflexion. Donc.
Oui, et d'ici là, l'artiste nous donne ça ou ses recettes pour une écoute optimale de son disque.
C'est ce qui différencie le travail de l'album qui m'est très très cher et le travail des concerts qui m'est très très cher aussi. C'est que l'album, il sera écouté le matin, le soir, en voiture, à l'extérieur, dans un endroit très chaleureux, très gemütlich. C'est allemand, c'est un mot que j'ai jamais réussi totalement à traduire, qui est une espèce de mélange de chaleureux, douillet, que ma maman me disait quand j'étais petit, gemütlich, on va se faire gemütlich. C'est quelque chose de très, très, plus que chaleureux. Alors que le concert, on peut travailler la manière dont les choses vont être perçues. Et l'idéal serait un concert, serait d'ailleurs de pouvoir maîtriser la journée entière du spectateur qui va venir, pour savoir dans quelles conditions tout ça va être reçu. Alors que le disque, c'est beaucoup plus libre. Et c'est très très intéressant aussi d'appréhender cette liberté-là, et donc de savoir que ça sera reçu naturellement totalement différemment, que ce soit écouté d'ailleurs devant un écran d'ordinateur, devant un écran de téléphone, ou avec un bel objet en main, ce qui change aussi beaucoup beaucoup l'écoute.
Goûter l'offrande jusqu'au suc, goûter à tout terriblement, goûter au miel comme l'abeille d'hiver, goûter enfin la beauté du monde, l'indécente beauté du monde.
L'indécente beauté du monde, Antoine Bataille. Alors, est-ce qu'il s'arrête juste à la réalisation d'albums, alors ?
Que nenni, Jean-François. Antoine Bataille est également derrière des musiques de films, mais pour des spectacles aussi, des festivals, du théâtre, des expositions, des lectures musicales, des émissions de radio ou encore des performances, comme avec le plasticien Olivier de Sagazan au festival Rencontre Improbable à Bayonne, Biarritz et Anglette. Il a même assuré une époque des concerts de rue. Une bonne expérience, Antoine ?
C'est l'espace par excellence qui fait que les gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Rien n'empêche quelqu'un qui s'ennuie une seconde de partir. Il n'y a aucune politesse de gêner les autres parce qu'on se lève et on quitte la salle. Donc, si je suis là, c'est que j'ai envie d'écouter ce que je suis en train d'écouter. Dès qu'on s'enferme dans une salle, des gens vont se sentir attirés, vont avoir l'envie de rentrer dans la salle, et des gens vont se sentir exclus. Et pire que tout, des personnes vont décider que cette musique-là est destinée à telle personne ou autre. Dès qu'on met un piano dans la rue, Et quand je joue dans la rue, on se rend compte que ces frontières-là n'existent pas, que toute personne peut aimer ou détester telle musique. Tous ces préjugés-là disparaissent totalement. Et les rencontres sont merveilleuses de gens qui parfois eux-mêmes sont surpris en disant « Mon Dieu, jamais j'aurais pensé aimer cette musique, mais là ça me fait des frissons. » Ou, et l'inverse aussi, et c'est très bien, et on s'explique, on discute, et ça a été une forme de hasard d'y jouer, une forme d'immense surprise de voir ce qui résonnait à cet endroit-là, très vite une addiction. Et cette réalité-là, elle doit rester présente en permanence. Aucune musique, aucun art n'est destiné à un type de personne, tout ça n'existe pas.
Puissais-je avoir ton allègre conscience et me laver d'un trait d'écume? Puissais-je me coucher sur les braises? Puissais-je être chat et chasser la mouche sans la moindre idée de cruauté? Puissais-je m'abdiquer d'espèce?
Puissais-je Antoine Bataille sur l'album de L'Indécence?
Puissais-je tomber et me voir pousser des ailes? Lilith, Lilith! Puissais-je avoir ton goût du jeu et des petits fantoches? Puissais-je me rouer dans les cercles? Me cacher sous les cieux de plumes.
Merci à tous, Alain, Fanny, Carmen et Amélie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec Anne-Sophie Jeanne qui nous raconte la liaison entre Pascaline Bongo, la demi-sœur d'Ali Bongo et fille d'Omar Bongo, avec la star du reggae Bob Marley. Le livre s'appelle Bob Marley et la fille du dictateur. Il est paru chez Grasset et vous m'en direz des nouvelles.
Du coup des grands voyages, du coup des gloires et des conquêtes, et pour t'emporter le monde, puissais-je me forger des tanières et déverser la fronde? Puissais-je savoir tout de toi, tout de toi? Puissais-je savoir tout, l'élite, l'élite? Puissais-je être ami? Puissais-je me coucher sous les braises, l'élite?
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Puissais-je avoir ton allègre inconscience? Puissais-je armer des milices pour les affronter dans l'ivresse? Puissais-je ramper sans écorchure, me courber sans rien renier, mendier la caresse puis cracher dans sa main? Puissais-je creuser où on me semble des gouffres sans fond, sans forme, sans rien qui n'accroche le réel? Lévite, lévite, puissais-je...
RFI, la sélection du mois.